Bonjour et bienvenue dans Certains Lèmes à Chaud, l'émission qui se baigne avec les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui on est tous les deux. Aujourd'hui c'est romantique, on va à la plage, on va à la mer. Quand on va à la mer, on se sent un peu comme des enfants. Comme des enfants de la mer. Oh, quelle transition.
C'est fou à quel point ça te rend poète, tu te sens obligé de dire qu'on est deux, qu'on est là, que c'est le retour du duo, la magnificence du duo. Non, parce que je veux dire, hier on était deux hein, quand on allait voir vos parents, et bizarrement ça t'a pas inspiré. Hein.
Mais les auteurs n'étaient pas inspirés non plus, donc je n'ai aucun scrupule. Aujourd'hui c'est un épisode animation, très beau film d'animation, Les Enfants de la Mer, de Ayumu Watanabe. Alors c'est son premier long métrage, c'est quelqu'un qui a réalisé des séries télé jusque là, et là c'est un premier long métrage. Ça sert à rien que je vous donne les doubleurs parce qu'on s'en fout, je vous l'avouerai tout de suite. Pourquoi on va voir ce film? Parce qu'on va pas voir beaucoup de films d'animation. Eh bien celui-là, on y va, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que ça parle d'une fille qui faisait du handball, qui se fait virer de l'équipe et qui pendant les vacances tombe sur un mec qui peut parler, semble-t-il, aux animaux marins, et je sais pas. Et en fait c'est beau. C'est fichtrement beau, la bande-annonce est à tomber par terre et je me suis dit, il faut aller absolument voir ce film.
Non oui, en effet, une bande-annonce qui est magnifique, ça te décolle la rétine. Donc du coup c'est marrant parce que là, ne serait-ce que là, on est capable d'affirmer que le film va être très beau. Est-ce que le film va être très bon, ce sera un autre débat, mais je pense qu'on va se régaler en termes d'image. Ça a l'air super beau, ultra léché, ultra...
Ou alors on se fait avoir, c'est comme les séries télé, c'est-à-dire que t'as un générique qui déchire sa race et après tu regardes le reste de l'épisode, ça a été sous-traité en Corée du Nord, comme c'est moche.
Comme un vieux RPG où tu vois une superbe cinématique, du coup t'achètes le jeu et après ils sont obligés de mettre un curseur rouge et vert sur ton perso parce que t'arrives pas à le repérer dans la carte tellement c'est moche.
Allons-nous réussir à nous repérer? Serons-nous noyés dans ce film? Baignerons-nous dans le bonheur? Réponse après la bande-annonce.
空を飛べる。動くに決まってる。夏は体が軽い。僕は海。君は？彼はね、ジュゴンに育てられたんだ。もう一人の少年と一緒にね。空くん。見たの？小さい頃光になって消えるとこ。空くん。
C'était beau. J'ai pas compris grand chose, mais c'était beau.
C'était très beau, mais le fait que ce soit beau, c'est le problème. Parce que du coup, il y a plein de moments où on choisit de s'évader dans les images, dans la poésie visuelle et dans tout ça, et on zappe plein de choses. Alors déjà que au niveau de la narration et au niveau des dialogues, et au niveau de ce que ça essaie de dire, j'ai l'impression que c'est que du message caché, voilà, la symbolique de partout. Donc déjà, il faut quand même s'accrocher pour capter. Mais alors si en plus, tu es en train de te subjuguer à mater les plans, à juste te laisser porter par le truc, et après tu réalises que tu as zappé un élément, et tu cherches, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est compliqué. C'était compliqué à regarder sur ce point-là. Après, d'un autre côté, par contre, c'est vrai que c'est très très beau à voir, et tu décroches pas, quoi.
Ouais, non, j'ai très vite lâché la rampe au niveau scénario, au niveau histoire. Parce que y a les personnages agissent, ils vont chercher quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, on ne comprend pas bien. Et une fois qu'on y est, on ne comprend toujours pas. Et alors, il y a énormément de symbolique dans tous les sens. Il y a de très beaux tableaux. Chaque plan, presque, c'est un fond d'écran. C'est très, très cryptique. Alors, c'est très poétique, mais peut-être que ça en fait trop, justement. Ou peut-être que ça fait partie du charme. De ne rien vraiment expliquer, de tout être dans la poésie, dans l'imagination, dans l'image, même le but. Donc on va suivre cette jeune fille, Ruka. Donc elle rencontre deux frères, Umi et Sora, qui ont été élevés avec les dugongs. Ce sont des espèces d'éléphants de mer, c'est ça?
Ouais,
c'est ça. Et qui vivent dans l'eau, quoi. C'est leur élément, c'est l'eau. Ils ne peuvent pas sortir de l'eau trop longtemps. Il faut hydrater leur peau en permanence parce que sinon, ils peuvent mourir et ils se déshydratent très vite. Ils nagent très, très facilement dans l'eau. C'est comme s'ils volaient dans l'eau quasiment. Et ils peuvent entendre les chants des animaux marins et même communiquer avec les animaux marins.
Et c'est ce qui apporte du coup une seconde poésie en plus de la poésie visuelle. C'est tout ce qui est autour des chants. Donc au début, c'est vrai que quand on avait évoqué ce dont ça allait parler au préambule, moi j'avais peur, la fosse, ça dépend comment ça aurait été exploité, que ce soit vraiment des enfants qui parlent aux animaux. Donc on les voit parler, communiquer oralement avec des animaux qui parlent. Donc au final, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. J'ai vu que c'était une adaptation. Donc j'imagine que ceux qui connaissent le média original sont peut-être beaucoup moins perdus aussi que ça, puisque c'est peut-être une continuité de quelque chose qu'il vaut mieux connaître de fond en comble. Parce que oui, en effet, voilà, une fois de plus, ça rajoute encore des éléments. Tu te laisses porter par les chants, tu essaies de comprendre quels sont ces chants. Il y a une histoire de météorites qui se transmettent. On ne sait pas énormément à quoi ça sert, puisque même au moment où Ruka l'obtient et est censée la retransmettre à Omi, puisque c'est vraiment le rôle qui lui est prédestiné, elle refuse de le faire parce qu'elle considère que c'est dangereux. Donc du coup, oui, en effet, je n'ai pas vraiment compris à quoi ça servait. Elle est virée de son équipe au début de l'été, donc du coup elle fera pas la saison avec elle, et donc avec les filles de son équipe de handball, et donc du coup elle va trouver autre chose à faire de son été, et ça dure tout l'été.
Pourquoi est-ce qu'il la suit ? C'est qu'elle a déjà ça un peu dans le sang. Déjà toute petite, elle avait déjà les visions, elle voyait déjà les baleines briller dans l'aquarium, parce que elle aussi elle est liée à la mer. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que son père travaille à l'aquarium et que sa mère, si j'ai bien compris, était une super dresseuse de fous. C'était la star des dresseuses d'animaux marins. Donc, elle a déjà cet héritage, parce que les parents travaillent là-dedans, mais elle-même aussi, elle voyait à peu près la même chose qu'eux. C'est juste qu'elle n'a pas été élevée dans la mer avec les animaux, mais en gros, elle a la même base. Elle a le même don qui n'a pas été développé, mais elle a la même base. C'est pour ça peut-être qu'il y a cet aspect-là. Justement, là, on parle du handball, mais je pense que c'est parce qu'il y a une rupture. Finalement, en fait, on a la solution plutôt à la fin. Pourquoi le handball ? C'est à un moment, elle fait un lien quand elle revient, justement, quand les vacances d'été sont finies et qu'elle revient à sa routine. Il y a un lien entre la mer et le ciel. Et si tu veux, le handball, c'est plutôt un jeu aérien. On va jouer avec les mains, donc la balle est en l'air, on va sauter. Il y a ce lien-là. Et pendant l'été, elle va se rattacher à la mer qui est plus au sol, qui est plus la mer. Et il y a une rupture, c'est-à-dire qu'elle se fait virer de l'équipe de handball le premier jour des vacances. Parce qu'en gros, elle se prend la tête avec une connasse qui lui fait des croche-pattes. Donc, elle répond un peu vertement en lui mettant un coup de coude dans le nez. Je trouve que c'est de bonne guerre. Bon, le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle s'excuse après derrière. Ça la fait chier, je comprends. Et donc, elle va passer les vacances d'été ailleurs. Et elle reviendra après l'été quand ça lui aura passé. Et donc, ouais, il y a une rupture. En gros, ce sont les vacances d'été. On change de lieu, on change d'horizon, on fait des nouvelles rencontres. Elle rencontre deux frères qui sont plutôt mignons. D'ailleurs, elle va les embrasser les deux. Voilà. Mais ouais, parce qu'il y a aussi cette allusion amour de vacances aussi. Même si c'est pas l'image principale, il y a aussi cette couche-là qui vient se rajouter par-dessus. Quand on prend ce prisme-là, que ça commence à se rouler des palos et que ça commence à se mettre des météorites dans le ventre et qu'on commence à avoir des cellules qui se développent, on se dit « Ah ouais, quand même, les amours d'été, ça va un peu loin, quoi. »
Je suis désolé, parce que là tu m'as perdu, parce que quand elle rencontre les deux frères, les deux sont plutôt mignons, d'ailleurs, elle les embrasse tous les deux et tout. J'étais en amour d'été, je fais « Ouh là là, on dirait le début d'un Keshi, je fais gaffe. »
Mais pas loin, on filme pas des culs pendant deux heures. Hein.
Qu'il y a la métaphore de l'enfance aussi avec l'histoire des cellules qui se développent. On va quand même jusqu'à justement une naissance de toute manière. Donc oui, il y a la thématique japonaise du renouvellement de la société qui est assez présente. Le film se veut pas mal écolo.
Et oui, mais après le message écolo, c'est aussi tourné vers son propre pays, parce que j'imagine que le dessin animé, enfin, le film est à l'origine tourné vers le Japon, il n'est pas tourné vers l'international, d'où l'importance de ce message aussi. Et donc on reprenait l'histoire, donc on a cette histoire entre les deux, il y a une histoire de météorite, il y a une histoire de naissance au milieu de la mer, et donc il y a une invitation, il y a une histoire de météorite, je n'ai pas tout bien compris. Mais visiblement il y a un événement très important, et donc toute la mer et tous les animaux marins et toutes les personnes qui sont en lien avec ça veulent aller y assister. Et à côté, on a les scientifiques, Et des méchants qui parlent dans des bureaux. Ils parlent dans des bureaux en buvant des cocktails, donc c'est des méchants. Ils ont des costards, c'est des méchants. Et ils veulent aller le voir aussi. Et ils veulent aller voir ce rendez-vous. Et ils y vont. Et quand ils y vont, c'est avec des gros navires de guerre. Bon, alors, je vous avouerai que j'ai pas tout compris, parce que les navires de guerre, on les voit au début, on les voit plus après. Je n'ai pas tout saisi. Mais bon, l'histoire, j'ai vite oublié, comme je dis. On a ça et on va plus se tourner sur le graphisme, sur l'animation qui est folle. Ça varie dans les techniques. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Attention. En gros, on va avoir des scènes de vie un peu quotidiennes où là, bon, alors, l'animation est plus modeste, c'est plus traditionnel, entre guillemets. Donc là, on se dit, bon, quand même, et au moment où on commence à se dire, bon, est-ce que ça ne va pas être un peu ennuyeux, où est-ce qu'on va ? Pam ! Il y a un éclat qui arrive, il y a un effet de mouvement qui mélange la 2D et la 3D. Donc souvent, les décors sont en 3D, ils bougent, et c'est pas de la 3D bête, c'est soit du cel shading, c'est-à-dire avec les traits qui sont un peu grossis. On a de la 3D, donc du cel shading un peu, qui va faire donc cet effet, comme on voit souvent dans les jeux vidéo, avec les gros traits noirs sur les arêtes, un peu pour faire un effet dessiné. Mais aussi, dans les scènes de 3D, aussi, les textures sont dessinées. C'est-à-dire qu'on a le 3D, on a les plans et on a du dessin. Je pense qu'à regarder, il faut un bel écran.
Ouais.
Un bel écran bien réglé. Alors nous, on l'a vu au Cinoche, c'était pas mal, c'était plutôt bien. Je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut encore optimiser parce qu'il y a des images, à un moment, ça alterne beaucoup. Il y a des images qui sont très lumineuses, d'autres qui sont très sombres avec des subtilités de lumière, d'intensité. Des fois, on a du mal à tout capter. Et je pense qu'avec les écrans de dernière génération ou avec un écran très bien réglé, on peut se faire vraiment plaisir.
Non mais c'est ça, oui, ça joue énormément sur les contrastes. Il y a le terre-mer aussi qui du coup va énormément alterner. Il y a différents niveaux de mer. On a un moment où ils sont dans des espèces d'abysses ou très rougeâtres, très sombres, limite infernales, où justement c'est des poissons qui sont plus menaçants, qui sont plus... c'est magnifique. Et surtout c'est au niveau de la faune, au niveau de la faune marine, mais c'est incroyable le niveau de détail. Il n'y a jamais un moment où ils vont lésiner sur le détail juste pour dire « Tiens, regarde, là, il y a un poisson, elle parle avec. » Non, c'est vraiment, c'est tout le temps fourni. Mais en même temps, ça, c'est un énorme bordel, l'océan, je veux dire. Il y a énormément de choses, il y a énormément de choses qui se passent dans les océans. Donc, c'est pas étonnant. Et vraiment, ils y portent un soin immense. Tu sens que les gens qui ont fait ça, ils ont mis tout leur amour, quoi. C'est vrai que c'est... Ouais. La faune marine, c'est hyper impressionnant.
Oui, voilà, parce que autant les personnages sont dessinés un peu manga, c'est-à-dire ils ont toujours, ils sont très maigres, ils ont des grands yeux globuleux, mais des détails portés sur les yeux aussi quand même, les cils, sourcils, ce qui n'est pas toujours le cas en animation. Et d'ailleurs, ouais, il y a plus de détails peut-être sur ces détails-là. Et après, le reste du corps est parfois un peu, un peu fou, un peu pas très régulier forcément tout le temps. Sur les personnages humains, on ne porte peut-être pas autant la même attention que sur les animaux, justement, et sur les effets de lumière ou autre.
T'as le détail sur les yeux, en effet, mais c'est une invitation à regarder. C'est une invitation à dire ce qui est important, c'est de voir, de regarder, d'observer, d'admirer. Mais oui, tu sens que même s'il y a besoin de ces personnages, c'est eux qui font avancer aussi l'intrigue. Ils sont peut-être très importants dans le média de base, mais c'est pas ce qui les intéresse, quoi. Enfin, eux, ce qui les intéressait, c'était vraiment de dessiner cette espèce d'univers gigantesque et que l'on ne voit pas assez, quoi. Ça, c'était fantastique.
Le regard, le son aussi, on accentue énormément là-dessus. On était, on l'a dit, dans la salle 6, c'est-à-dire c'est une salle avec toujours les enceintes à fond.
Ouais.
C'est là-dedans qu'on avait vu d'ailleurs le chant du loup.
Ça devait être cool le chant du loup dans ce temps, enfin avec un bon son.
C'était
ça.
Très fort quand même, mais oui. Donc oui, le son très très important. Avec justement, on joue là-dessus, sur les alternances, sur les personnages, on parle des chants, les chants des baleines, le chant des animaux, les personnages arrivent, se manifestent par le son, on a le bruit de la mer évidemment, qui est là, si on est en extérieur ou si on est sous l'eau, c'est pas exactement le même son. On a aussi la musique, le travail sur la musique également.
La bande originale, c'est de Joe Hisaishi, qui est quelqu'un qui bosse énormément du coup dans l'animation, enfin même c'est un des grands, grands compositeurs. Qui sera peut-être en retrait à un certain moment, puisque l'essentiel aussi c'était de mettre en avant les chants, et je crois pas que ce soit lui qui ait supervisé ce travail-là, depuis ce que je crois avoir vu dans le générique que c'était quelqu'un d'autre. Donc lui, il va se concentrer sur les autres thèmes. Il y a des passages très forts qui vont vraiment accentuer avec des thèmes extrêmement épiques dans les moments où ça doit être épique, et d'autres moments où justement il se met énormément en retrait. Je pense que c'est une bande originale qui sera très intéressante à écouter à part, pour voir justement, dans les moments où on s'intéresse au chant des baleines, il y a quand même une musique en fond. Qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle présente, quels sont les thèmes abordés, est-ce que ça a justement des thématiques qui peuvent s'influencer d'autres thématiques marines. Non, ça avait l'air assez chouette sur ce point-là, j'y ai moins fait attention.
Joe Hisaishi, il a énormément travaillé sur beaucoup d'œuvres. Il avait travaillé avec Ghibli, par exemple. Donc Totoro, Chihiro. Voilà. Il avait aussi travaillé avec Takeshi Kitano. donc pour Dolls ou l'été de Kikujiro par exemple. Et c'est vrai qu'on a cet aspect, des petites musiques d'ambiance aussi par moment, surtout quand il est dans le village. Moi je retiens au moment quand il y a une espèce de fête hein, au village. C'est à ces moments-là où j'ai remarqué la musique et j'ai très très agréablement cueilli. Bon, on régale pour le scénario, ça je sais pas encore. Pour le cerveau par contre, c'est un peu la galère. Moi ça m'a rappelé, tu sais, ça m'a rappelé mes premiers animés. Quand j'ai découvert, alors peut-être pas mes premiers animés Club Dorothée, mais mes animés, mes vrais films d'animation. Vrais films, ça veut rien dire, mais je veux dire, là où je me suis vraiment intéressé aux animes japonais, à les regarder peut-être en VO, peut-être quand j'ai commencé à être ado, à regarder du seinen, en gros. Quand j'ai vu Ghost in the Shell pour la première fois, tu vois, c'était un soir sur Arte, ça m'a fait bizarre. Hein. Quand j'ai vu Evangelion aussi, bon là, c'est une série, mais c'est pareil. Chaque fois, on t'attire avec des androïdes, on t'attire avec des robots géants, tu te dis, ouais, c'est bien, ça va castagner, tu vas en prendre plein les yeux. Et puis sur la fin, blam, t'as un petit scénario what the fuck.
C'est vrai qu'on
est sans Evangelion. T'as de la question métaphysique sur l'être,
qu'est-ce que l'humain,
c'est quoi le rapport à l'univers, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la réalité. Blam, allez, tiens, prends ça dans les dents. Tu l'as pas vu venir. Bon, celui-là, par contre, il prévient. C'est vrai que là, les enfants de la mer, il prévient. Ça commence par les enfants, une étoile, la naissance d'une étoile, la naissance des enfants. Tu sens d'emblée, avec les premières phrases, qu'ils vont t'amener là-dedans. Tu sais que il va falloir s'accrocher.
Une fois de plus, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement culturel. Je pense que si tu es... même quelqu'un de très habitué à la culture japonaise va s'y perdre aussi. Parce que si tu es japonais, tu as grandi avec ça. Enfin, les japonais consomment une immensité de films d'animation. Dire nous, on en reçoit même pas le huitième, quoi. Du coup, ouais, ils seront peut-être moins perdus parce qu'ils connaissent ces thématiques, parce qu'ils connaissent aussi le manga, parce qu'ils... Voilà, donc du coup, on est plus sympa. Mais c'est vrai que là, on est perdu. Ça me donne envie de le revoir. Ça donne envie de le revoir pour essayer de décortiquer, de se dire, allez, maintenant, attendons-nous moins sur les images, essayons de comprendre ce qu'il y a autour. Et ça doit être du régal. De lire peut-être aussi. De lire peut-être aussi des interprétations de la part des réals. Voilà, ça peut être intéressant de voir ça. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses derrière, des choses à dire, des choses à montrer. L'image montre énormément de choses. On est énormément sollicité. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est perdu. C'est que vu que chaque plan est magnifique, on est très sollicité. Le cerveau est toujours sur... Il n'y a aucun moment où il te relâche la pression. Le rythme n'est pas toujours non plus très soutenu. Il y a des moments où c'est très contemplatif, il y a des moments de lenteur, mais toujours avec une imagerie très léchée. Donc du coup, tu es tout le temps sollicité. Ce qui fait que l'attention ne se porte pas toujours sur ce qu'il faudrait, mais sur les détails et sur le reste.
C'est ce que je voulais dire, en fait, pour résumer l'expérience. C'est un film qui m'a submergé.
Ouais.
C'est ça, c'est le mot. C'est un film qui m'a vraiment submergé. J'ai été submergé par la mer et par les enfants de la mer, justement, par ce flot d'images, ce flot de symboles, ce flot de beauté, finalement, qui m'a complètement pris, quoi. Alors, quitte parfois à se noyer un peu dedans, c'était Certains les Machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également nous soutenir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en partageant l'épisode et en commentant. Faites connaître à vos amis si vous avez aimé l'épisode. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître et c'est ce qui nous soutient le mieux finalement. Parler de nous sur les réseaux sociaux, même commenter sur un petit like comme ça. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Voilà, ça nous encourage aussi à continuer. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, j'espère, ou dans vos oreilles pour un prochain film. À très bientôt. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.